Je passe maintenant la parole à Arlette Laguiller.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Beaucoup le savent ici, mais nous le réaffirmons, notre organisation se revendique des idées communistes. À certains égards, l'idéal communiste, l'idéal d'une société égalitaire, est aussi ancien que la société de classe. C'est avec la révolution industrielle et l'apparition d'un prolétariat moderne que l'idéal communiste s'est débarrassé de son vernis religieux pour apparaître comme une réponse au capitalisme triomphant. Ce capitalisme en train de pousser une part croissante de la population vers les usines, vers les taudis des villes industrielles naissantes. Ce que l'on a appelé le courant socialiste utopique incarnait encore un rêve, celui d'une société sans exploitation, fraternelle, sortie de l'imagination des premiers socialistes. Ce rêve généreux se nourrissait de la misère du prolétariat. Mais les socialistes utopiques ne décelèrent pas, derrière la souffrance de cette classe sociale, la force qui serait capable de changer le monde. Et c'est Marx qui a donné aux idées socialistes et communistes un fondement rationnel. Et depuis lors, ce courant a toujours existé dans le mouvement ouvrier. Au long de son histoire, il a été incarné, à certains moments par des petits groupes, même par quelques individus seulement, et à d'autres moments par des partis importants qui ont influencé une majorité de travailleurs. Ce courant a toujours affirmé que l'avenir de la société passe par la disparition de la propriété privée des moyens de production, la mise en commun des richesses et des moyens de les produire, afin que l'on produise en fonction de ce qui est nécessaire pour tous et non pas en fonction du profit pour une minorité capitaliste. Marx a légué au courant communiste une analyse scientifique de la société capitaliste comme une étape dans le développement de la société humaine, contrairement à ceux qui, à son époque comme aujourd'hui, affirmaient qu'avec le capitalisme, l'organisation sociale avait trouvé sa forme définitive, avec des lois qui seraient éternelles, sinon avec des lois naturelles. Marx considérait que le capitalisme, qui avait représenté un progrès pendant une période donnée de l'histoire, aurait sa vieillesse, où il serait dépassé par les forces productives qu'il avait lui-même créées. Devenu à son tour un obstacle au progrès de l'humanité, le capitalisme devrait alors céder la place à une nouvelle forme d'organisation sociale. Marx considérait ainsi que le capitalisme serait la dernière forme d'organisation sociale basée sur la division de la société en classes aux intérêts divergents ou opposés, que ce serait la dernière forme d'organisation sociale où une minorité concentre entre ses mains l'essentiel de la richesse sociale et exploite et opprime la majorité. Ce que Marx nous a légué également, c'est l'analyse de ce qui, dans le développement même du capitalisme, annonce l'organisation de la société future sans exploitation, où l'humanité pourra enfin maîtriser consciemment et sa production et ses rapports sociaux. Même si, bien sûr, l'économie capitaliste a connu une évolution depuis Karl Marx, eh bien, nous nous revendiquons, oui, du marxisme dont les idées fondamentales ont gardé toute leur actualité. Les idées de Marx se sont répandues dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans la classe ouvrière, d'autant plus naturellement qu'elles correspondaient à ses sentiments profonds. D'autant plus naturellement que c'est l'exploitation elle-même qui poussait un nombre croissant de travailleurs à défendre collectivement leurs intérêts matériels et à défendre leur dignité en créant toutes sortes d'organisations, des mutuelles, des syndicats. Les travailleurs les plus conscients étaient tout préparés à l'idée propagée par les communistes que leur classe était porteuse d'un autre avenir pour l'humanité. Et c'est autour de cette idée que s'est créée la première internationale, l'Association internationale des travailleurs. Un peu plus tard, Marx était déjà mort, quand surgirent et se développèrent des partis importants. À l'époque, on disait Parti social-démocrate ou Parti socialiste, dont le plus influent était le Parti social-démocrate allemand, à partir de 1870. Et Rosa Luxembourg, qui était une des grandes figures de ce parti, disait même, en substance, que la social-démocratie allemande n'était pas seulement un parti de la classe ouvrière, mais qu'elle était la classe ouvrière elle-même. Malheureusement, la suite montra que ce n'était pas tout à fait vrai, et que la direction de ce parti, son appareil, qui était issu des couches de la classe ouvrière les plus influencées par la bourgeoisie, eh bien, se révéla incapable de jouer le rôle qui aurait dû être le sien lors de la conflagration qu'a été le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Au lieu de résister à la pression des bourgeoisies engagées les unes contre les autres dans une guerre sanglante où chacune cherchait surtout à élargir sa sphère d'influence économique et à accroître ses pillages, eh bien les partis social-démocrates basculèrent, dans leur grande majorité, du côté de leur propre bourgeoisie et justifièrent la guerre. Par là même, ils privèrent le prolétariat de toute perspective politique propre, enchaînant les travailleurs derrière leur bourgeoisie nationale contre leurs frères de classe qui étaient de l'autre côté de la frontière. Et la social-démocratie donna alors des ministres au cabinet de guerre de part et d'autre des lignes de front. Et lorsqu'à partir de 1917, le prolétariat commença à se soulever contre la guerre, et pas seulement en Russie, mais aussi en Allemagne et dans un grand nombre d'autres pays, eh bien le prolétariat trouva partout les dirigeants de la social-démocratie sur son chemin et contre son combat. C'est pourtant des rangs de la social-démocratie que surgit en Russie le parti bolchévique, qui allait représenter la continuité du mouvement communiste révolutionnaire contre les dirigeants socialistes qui avaient trahi. Avec le parti bolchévique, le prolétariat russe disposait d'un véritable parti révolutionnaire, d'une direction résolue, déterminée, énergique et décidée à aller jusqu'au bout. Et lorsqu'en février 1917, le prolétariat russe se lança en premier dans la lutte révolutionnaire, la principale force du parti bolchévique fut d'exprimer la volonté de millions de prolétaires et de paysans russes. Et c'est grâce à la conjonction des deux, c'est-à-dire de l'énergie révolutionnaire des masses exploitées et de la détermination et de la compétence de la direction révolutionnaire que représentait le parti bolchévique, que le prolétariat put prendre le pouvoir. Et ensuite, qu'il put l'exercer à travers ses propres organisations de combat et se maintenir au pouvoir malgré une longue guerre civile doublée de l'intervention militaire de pratiquement toutes les grandes puissances impérialistes liguées contre la révolution. Eh bien oui, nous nous revendiquons aussi de cet héritage-là, de l'héritage qu'ont incarné à l'époque les dirigeants de la révolution russe et le principal d'entre eux, Lénine. Ce que Lénine disait alors sur le rôle joué par l'État de la bourgeoisie, indépendamment de la forme de cet État, qu'elle soit dictatoriale ou qu'elle soit à façade démocratique, est valable encore aujourd'hui. Comme est valable sa conception du parti qui est nécessaire à la classe ouvrière pour s'émanciper. Pendant les quelques années qui suivirent la Révolution russe, le communisme a été incarné par des partis communistes numériquement importants, influents dans beaucoup de pays, dont la France. Et il a été incarné en Russie par un État d'un genre nouveau qui, pour la première fois, ne représentait plus les intérêts d'une mince couche d'exploiteurs, mais ceux de la majorité exploitée de la population. Un État qui a été l'instrument de la classe ouvrière pour défendre sa révolution contre le retour de la bourgeoisie. Il fut aussi amené, cet État, à prendre en main la gestion de l'économie du pays et commença à la développer sur des bases toutes différentes de celles du capitalisme. La vague révolutionnaire qui, entre 1917 et, disons, 1923, balaya une partie importante de l'Europe, fut cependant arrêtée. La bourgeoisie européenne remporta cette première grande confrontation contre la classe ouvrière avec l'aide décisive, je le répète, des dirigeants de la social-démocratie. La révolution restée isolée en Russie, un pays pauvre où le prolétariat ne représentait qu'une faible fraction de la population, n'eut pas une longue existence, à peine une dizaine d'années. Le prolétariat russe ne fut pas vaincu par le camp d'en face, par la bourgeoisie. C'est au sein même de l'État créé par la classe ouvrière qu'apparut, se développa une bureaucratie qui, tout en conservant les bases économiques créées par la Révolution, l'étatisation des moyens de production, cherchait surtout à accroître et à consolider ses privilèges. Elle y parvint, vous le savez, sous la direction d'un dirigeant issu de ses rangs, Staline. Et le Parti communiste au pouvoir cessa d'être révolutionnaire pour devenir le représentant de cette bureaucratie. Il entraîna rapidement dans son sillage les partis communistes des autres pays qui, tout en gardant leur étiquette communiste, devinrent des instruments obéissants de la diplomatie soviétique. Et les éléments véritablement révolutionnaires de l'ancien parti bolchévique furent écartés par Staline. Puis à partir des années 30, ils furent assassinés et Trotsky lui-même le fut, sur ordre de Staline, en 1940. C'est pourtant au sein de ce courant communiste que se trouvaient les militants qui s'opposèrent à la montée du stalinisme, des militants qui s'étaient regroupés autour de Trotsky et qui s'opposèrent aux privilèges bureaucratiques naissants, qui s'opposèrent à la dénaturation des idées communistes, et ils le firent justement au nom du communisme. Nous, lutte ouvrière, nous nous revendiquons de l'héritage de Trotsky et en premier lieu de son analyse de la dégénérescence de la révolution soviétique. Par là même, nous nous revendiquons de l'héritage de ces hommes qui, avec Trotsky, ont résisté à cette profonde réaction qu'ont été la dégénérescence et la bureaucratisation du premier État ouvrier, de ces militants qui, malgré cette dégénérescence, n'ont pas perdu leurs convictions, ont continué à se battre et pour la plupart sont morts dans les camps de concentration ou sous les balles des spadassins de la bureaucratie. Oui, nous nous revendiquons de cet héritage-là. Certains de ces militants avaient connu la révolution de 1917, voire pour les plus anciens, les années de lutte clandestine contre le tsarisme. Ils avaient connu la prison, la déportation ou l'émigration. D'autres, plus jeunes, avaient connu les années de guerre civile, puis la lutte pour arracher à la bourgeoisie le pouvoir économique et l'empêcher de revenir. Ils s'étaient tous retrouvés côte à côte face à la bureaucratisation qui minait insidieusement le parti bolchévique, dénaturait son idéal et l'objectif, la révolution internationale pour lequel il avait été créé. À eux tous, quelques milliers, ces femmes, ces hommes, ces militants représentaient un capital d'expérience considérable. Avec l'opposition de gauche en Union soviétique, des décombres du parti bolchévique stalinisé a émergé un véritable parti, le seul qui, dans le courant trotskiste, a mérité véritablement ce nom. Et un des pires crimes du stalinisme, un des pires crimes, a été de détruire ce parti, et de le détruire de la seule façon dont on pouvait détruire une collectivité de combattants révolutionnaires en liquidant physiquement tous ses militants. Et c'est pratiquement la première fois que la continuité du mouvement communiste révolutionnaire, la continuité physique en tout cas, fut rompue. Il n'y eut plus cette transmission directe de militant à militant, de génération à génération, cette transmission vivante des expériences, des idées, des engagements qui ont joué un rôle si déterminant à travers toute l'histoire du mouvement ouvrier. Le drapeau de la révolution communiste ne fut repris que par de petits groupes sans expérience, sans capital politique ailleurs qu'en Union soviétique. Et même ces petits groupes, eh bien, ils subirent la pression du courant stalinien, destiné à les isoler du mouvement ouvrier. Ils subirent les calomnies, les pressions physiques, voire les assassinats. Le courant trotskiste est resté, et il reste encore, très minoritaire à l'intérieur même du mouvement ouvrier, mais il a survécu. Et à travers toutes les vicissitudes de l'histoire, nous sommes restés communistes. Contrairement aux grands partis, dont les noms portent encore les vestiges de leurs idéaux communistes et socialistes, idéaux qu'ils ont abandonnés depuis longtemps pour limiter leurs ambitions politiques à servir la bourgeoisie dans ses gouvernements. Et aussi, contrairement à eux, eh bien nous n'avons rien à renier de ce que nous avons dit, de ce que nous avons écrit, de ce que nous avons fait il y a 20 ou 40 ans. Et aujourd'hui, devant la faillite du capitalisme telle qu'elle se manifeste dans la crise actuelle, oui, nous affirmons que l'avenir appartient au communisme.